Merci d'écouter RFI. 9h à Washington et à Port-au-Prince. Il est 13h en temps universel.
RFI Midi.
Dernière partie de RFI Midi sur le continent américain avec à la une le conclave qui commence dans un peu plus d'une heure. Réunion au secret des cardinaux électeurs pour désigner le successeur du pape François. Le conclave, très attendu en Amérique latine, nous le verrons. À suivre aussi, reportage à Port-au-Prince où les gangs recrutent de plus en plus d'enfants, à tel point qu'ils représentent aujourd'hui 40 voire 50% des rangs des groupes criminels. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, comme chaque jour, avec vous, Benoît Ferrand. 2024, année à oublier pour l'économie martiniquaise. Voilà, dans les grandes lignes, le bilan dressé par l'Institut des missions des départements d'Outre-mer.
Selon l'IEDOM, ce sont les secteurs pourtant très importants du BTP, de l'agriculture et du tourisme qui auraient le plus souffert en Martinique l'an dernier.
À tout à l'heure. Et tout de suite, le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
L'escalade tant redoutée entre l'Inde et le Pakistan est en train de se produire.
Oui, après une phase de simple échange de tirs, les artilleries et les aviations des deux pays sont entrées en action. Des échanges d'attaques ont été observés le long de leurs frontières. Il y aurait au moins 26 morts côté pakistanais, 12 côté indien. Cette crise armée est la plus grave entre les deux pays depuis deux décennies. La communauté internationale les appelle à faire preuve de retenue. Selon l'ONU, le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire Inde-Pakistan. Mais ce matin, les autorités pakistanaises ont prévenu qu'il faut s'attendre à une réaction forte suite à l'agression indienne. Les précisions sur place de Sonia Ghezali.
Les frappes indiennes ont touché la nuit dernière plusieurs villes du Cachemire administrées par le Pakistan, mais aussi Muridkot, Sialkot, Chakargah et Bahawalpur dans le sud du Punjab. Les cibles, des mosquées, un dispensaire, des habitations. Le Pakistan dénonce une attaque lâche et injustifiée. Le porte-parole de l'armée a promis une réponse forte.
Les forces armées pakistanaises, avec le soutien total du peuple pakistanais, répondent de façon complète et forte à l'agression de l'ennemi. Une réponse ferme sera donnée à cet acte d'agression, en particulier pour avoir pris pour cible des civils innocents et désarmés.
L'armée pakistanaise déclare avoir abattu 5 avions de chasse de l'armée indienne ainsi qu'un drone. Des échanges de tirs d'artillerie fournis ont lieu depuis la nuit dernière le long de la ligne de contrôle. Tous les hôpitaux de la province du Punjab et du Cachemire sont en état d'alerte. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
Également dans l'actualité du jour, une visite officielle très controversée, celle que fait ce mercredi à Paris le nouvel homme fort de la Syrie, le président par intérim Ahmed El-Chara. Il est reçu cet après-midi par Emmanuel Macron. Depuis qu'il a pris le pouvoir cet hiver à la tête d'une coalition islamique, c'est la première fois que cet homme au passé djihadiste a droit à tant d'honneur en Europe. La droite et l'extrême droite française sont montées au créneau pour critiquer le président français. Ainsi, pour l'un de leurs chef Éric Ciotti, le tapis rouge de l'Élysée aura la couleur du sang des victimes du terrorisme islamiste. Fin de citation. Les rebelles houthis font savoir qu'ils continueront de cibler les navires israéliens passant au large du Yémen, et ce malgré le cessez-le-feu conclu avec les États-Unis. Un accord qui, dans l'État hébreu, suscite embarras et surprise. Les médias affirment qu'Israël se sent abandonné par Washington. Explication à Jérusalem de Michel Paul.
Le président américain a créé la surprise en Israël en annonçant un cessez-le-feu entre les États-Unis et le régime des rebelles houthis, une trêve qui, souligne les médias ici, n'inclut pas Israël. Un haut fonctionnaire israélien a confié au site d'information Axios que Washington n'avait pas informé Israël à l'avance de cette annonce. « Nous n'étions tout simplement pas au courant », affirme ce haut fonctionnaire. Et cela se produit précisément au moment où Israël redouble ses attaques contre des infrastructures liées aux rebelles du Yémen. Et ce n'est pas tout. Donald Trump fait état de la mort de 3 otages supplémentaires, rabaissant à 21 le nombre d'otages présumés vivants. Une annonce réfutée par le médiateur israélien chargé des otages. Le nombre de captifs retenus à Gaza, toujours en vie, reste inchangé, proclame Gal Hirsch. Le président américain avait déjà pris le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de court au début du mois dernier, en indiquant que les États-Unis s'apprêtaient à négocier directement avec Téhéran un accord sur le dossier nucléaire iranien. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
15 jours après la mort du pape François, début aujourd'hui à Rome, du conclave, nom donné à ce processus électoral qui aboutira au choix du successeur. De la fumée blanche, vous le savez, s'échappera alors d'une cheminée de la chapelle Sixtine. Les cardinaux venus du monde entier ont célébré ce matin dans la basilique Saint-Pierre la messe précédant l'ouverture du conclave. Ces conclaves lors desquels les cardinaux électeurs sont littéralement coupés du monde et même privés de leur téléphone portable. Ils s'étalent souvent sur plusieurs jours. Un premier vote est prévu en fin d'après-midi.
Direction l'Ukraine où la guerre se poursuit.
Oui, elle continue. En cette veille du cessez-le-feu unilatéral promis par Vladimir Poutine pour, dit-il, raison humanitaire. Plus de 200 drones et 5 missiles russes ont été tirés la nuit dernière sur l'ensemble du pays et notamment sur la capitale Kiev. En direct avec nous, notre correspondante Emmanuel Chaz. Emmanuel, comment s'est passé à Kiev cette nuit de tir ?
Eh bien écoutez, les frappes de la nuit ont une nouvelle fois vraiment traumatisé les habitants de la capitale ukrainienne. Une nuit avec pas moins de 6 alertes aériennes et de nombreuses explosions. À Kiev se sont succédées les salves de missiles d'abord, puis des drones lancés par la Russie. Le bilan en plein cœur de la capitale est lourd. 2 morts, une mère et son fils bénévoles et plusieurs de leurs animaux. On compte également plusieurs blessés, dont 4 enfants. Plusieurs d'entre eux ont été hospitalisés avec des brûlures alors qu'un drone a frappé de plein fouet un bâtiment résidentiel. Ces frappes elles interviennent 2 semaines après une attaque d'ampleur similaire sur la capitale, le 24 avril dernier. Une attaque qui avait tué 13 personnes et blessé une centaine d'autres. Ailleurs, Zaporijjia, cible quasi quotidienne des frappes russes, a également été touchée. 40 000 personnes ont été privées d'électricité pendant plusieurs heures. Le gouvernement ukrainien rappelle une nouvelle fois à ses alliés qu'il voudrait voir augmenter la pression contre la Russie de façon tangible par des sanctions, notamment afin de priver Moscou de ses ressources financières.
En direct de Kiev pour RFI, c'était Emmanuel Chaz. Merci Emmanuel. Comme le veut la tradition, le nouveau chancelier allemand a réservé à la France son premier déplacement à l'étranger. Friedrich Merz a été reçu à la mi-journée par Emmanuel Macron. Ensemble, ils ont tenté de relancer le couple franco-allemand. Le chancelier se rend ensuite à Varsovie, autre capitale, la capitale de la Pologne, où il compte relancer des relations en souffrance.
Le sort de Boualem Sansal débattu à l'Assemblée nationale française.
Oui, les députés ont voté une large majorité hier, une résolution appelant à la libération de l'écrivain franco-algérien. Boualem Sansal a été condamné le 27 mars à 5 ans de prison. Malgré tout, malgré cette forte majorité, Aurélien de Vernoy, le texte divise les députés.
Et notamment à la France insoumise. Ce texte utilise Boualem Sansal pour régler des comptes avec l'Algérie, a dénoncé le député LFI Éric Coquerel. Son groupe a été le seul à voter contre la résolution, mais plusieurs paragraphes ont fait l'objet de vives critiques de la part de l'ensemble de la gauche, notamment parce qu'il proposait par exemple de conditionner les discussions entre l'Union européenne et l'Algérie à la libération de l'écrivain. On a une partie des élus de la République qui a choisi l'islamisme et l'intégrisme contre la France avec un cynisme le plus pur, s'est emporté le président du groupe LR à l'Assemblée, Laurent Wauquiez. La droite et l'extrême droite qui ont, elles, voté en faveur du texte, même si elles avaient proposé des mesures plus contraignantes, comme par exemple la suspension de l'ensemble des financements français et européens en direction de l'Algérie. Au final, c'est bien le texte initial qui a été voté par 307 voix pour, 28 contre et 4 abstentions. Un choix d'équilibre selon le camp présidentiel qui défendait la résolution. Ce n'est ni un acte de défiance, ni un geste de provocation, mais un appel à l'humanité, a ainsi défendu la rapporteure du texte, la députée Ensemble, Constance Le Grip.
Aurélien de Vernoy, enfin dans l'actualité économique du jour, une première depuis l'imposition par Donald Trump de droits exorbitants sur les produits chinois et depuis la riposte de Pékin. La Chine et les États-Unis annoncent qu'ils se réuniront le week-end prochain en Suisse. Les deux puissances jetteront les bases de négociations commerciales. Négociations organisées à la demande américaine, a précisé ce matin un porte-parole chinois. Et puis parallèlement, la Banque centrale chinoise a annoncé un train de mesures pour soutenir l'économie du pays, économie menacée par la guerre commerciale avec Washington et par une consommation intérieure morose.
À tout à l'heure, Gilles Moreau. Dernière partie de RFI Midi sur le continent américain.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
On le disait avec vous il y a quelques minutes, c'est le jour J au Vatican. Dans un peu plus d'une heure, les cardinaux se réuniront en conclave pour désigner le successeur du pape François. Ils sont 133 électeurs. Les cardinaux de plus de 80 ans ne votent pas. Et cet événement fait la une de la presse dans de très nombreux pays du monde, notamment en Amérique latine, Achim Lippold, où vit la majorité des catholiques de la planète.
Oui, au Brésil, Anne Folia de São Paulo nous plonge dans l'ambiance des réunions préparatoires. Dom Raimundo Damasceno, archevêque émérite d'Aparecida, raconte une atmosphère détendue, cordiale, avec des interventions très denses sur la vie, des idées des cardinaux. Chacun dispose d'environ 10 minutes pour se présenter, sans toutefois proposer de candidats. Plusieurs interventions ont visiblement marqué les esprits, notamment celle des Italiens Paroline Zuppi et Pizzaballa. L'archevêque de Porto Alegre, Jaime Spengler, prévoit une élection rapide de 2 à 3 jours, pas plus. Et du côté du Salvador, Prensa Grafica esquisse le portrait du pape idéal, une figure qui réunirait le charisme de Jean-Paul II, la rigueur intellectuelle de Benoît XVI et l'empathie pastorale de François.
Et nous suivrons bien sûr cette première journée de conclave avec nos envoyés spéciaux à Rome. Reportage dans le prochain journal dans un peu plus de 3 quarts d'heure. Et sur notre site internet, vous pouvez lire un article sur la manière dont se déroule cet événement majeur pour l'Église catholique.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
La presse haïtienne, elle, fait le point sur des opérations de police contre les gangs ces derniers jours dans des communes ayant fait l'objet récemment de raids particulièrement violents de la part des groupes criminels à Quinscoff, à Mirebalais et à Tabar. Et la PNH, la police haïtienne, assure qu'elle a tué plusieurs figures de ces groupes. Des gangs qui ne se contentent pas de terroriser et de tuer. Ils vont aussi recruter pour devenir plus importants encore, recruter notamment des enfants. On estime aujourd'hui, grâce à des rapports d'organisations locales et internationales, qu'entre 40% et la moitié des groupes criminels sont des mineurs vulnérables, manipulés ou séduits par les promesses des chefs de gang, ou bien souvent contraints. Mais pour l'instant, les alertes lancées par les ONG n'ont pas été suivies de mesures de la part des autorités et le phénomène continue de prendre de l'ampleur. Reportage à Port-au-Prince de notre correspondant Peterson Luxama.
Deuxième ciseau. Ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas non plus un jeu d'acteur. C'est la voix d'un enfant âgé entre 13 et 14 ans. Une voix enregistrée, partagée massivement sur les réseaux sociaux. Cheveux crépus, un M16 dans ses mains, l'adolescent parle avec fierté d'être membre d'un gang armé.
Je suis le deuxième ISO. Nous avons posé nos pieds sur la terre. Laissez les chars de côté, venez vous battre avec nous. Moi, je viens de Savian dans l'Artibonite. Je peux brûler les chars avec tous les policiers.
À Port-au-Prince et dans plusieurs quartiers populaires, les enfants sont de plus en plus nombreux à rejoindre les rangs des gangs armés. Une situation inquiétante que dénonce Self Belly, coordonnateur du Bureau national de défense des droits des enfants et des femmes.
Les gangs armés, dans leur volonté de grossir leurs rangs, recrutent des enfants en bas âge. Ils leur font croire que le gang représente leur avenir, alors que ce n'est pas vrai. Ce sont des enfants qui devraient être à l'école. Les bandits leur font croire que lorsqu'ils ont une arme en main, ils sont des chefs. Pourtant, ils ne font que détruire leur avenir en les poussant à tuer des innocents.
Certains de ces enfants, dans la majorité des cas, sont privés d'éducation. D'autres sont orphelins ou livrés à eux-mêmes. Pour ces adolescents, le gang représente un avenir. Selon Luc Manseril, président de l'initiative citoyenne pour la défense des droits des enfants, dans certains ghettos, les chefs de gang sont devenus les principaux modèles pour les enfants.
Ces enfants des ghettos ne voient rien d'autre que les armes. Chaque jour, ils côtoient les gangs, qu'ils considèrent parfois comme leurs propres parents. Ils n'ont pas d'autre modèle que ces chefs de gang qui manipulent des millions chaque jour et circulent à bord de voitures luxueuses. Déjà fortement influencés, il est très difficile pour ces enfants de penser à l'école, alors même qu'on dit souvent que l'école, c'est l'avenir.
Si certains enfants et adolescents sont attirés par les gangs, d'autres y sont pourtant contraints. Dans certains cas, des parents épuisés et démunis n'ont ni les moyens ni l'autorité nécessaires pour empêcher leurs enfants d'y entrer. Ce sont même parfois les enfants qui prennent soin de la maison, souligne Luc Manseril.
Beaucoup de ces enfants enrôlés par les gangs jouent le rôle de parents à la maison. Ce sont eux qui nourrissent la famille et payent même le loyer, car les parents n'ont pas d'emploi, pas même un petit commerce. Ils vivent dans la misère, la faim, le chômage, sans compter la cherté de la vie.
Les groupes armés, le plus souvent, utilisent ces enfants comme guetteurs ou messagers. Et parfois, ça finit mal. Interpellations violentes, détention, comme ce garçon qui a été arrêté dans le sud du pays par le commissaire Jean-Ernst Muscadet.
J'ai un enfant entre mes mains qui vient de Carrefour de l'aéroport à Port-au-Prince. C'est lui qui recharge les armes des bandits lors des opérations. Il est actuellement avec moi au commissariat des Cailles. Je rentrerai avec lui à Mirgoan dans les prochains jours. Il doit répondre à beaucoup de questions et doit expliquer la raison de sa présence dans le sud.
Selon les chiffres de l'UNICEF ou d'ONG comme Save the Children, le nombre d'enfants qui sont membres de gangs en Haïti avoisine les 50%. Des chiffres alarmants qui inquiètent la Fondation Zami Timoun. Pour Bernard Félix, l'un de ses responsables, c'est un phénomène à combattre le plus tôt possible dans le parcours des mineurs enrôlés afin d'éviter le pire. L'organisation a d'ailleurs fait des propositions aux autorités.
Nous toujours prenons que gagner.
À la Fondation Zami Timoun, nous prenons toujours la protection et l'accompagnement des enfants les plus vulnérables, car ce sont majoritairement eux qui sont enrôlés dans les gangs armés. Avec une protection efficace et un accompagnement constant, nous pouvons lutter contre ce phénomène.
Comment protéger les mineurs du recrutement dans les gangs alors que ceux-ci contrôlent 85% de la capitale? Comment libérer et réintégrer les enfants enrôlés alors que 700 000 personnes sont déplacées à cause de l'insécurité? Autant de questions qui restent toujours sans réponse de la part du gouvernement haïtien. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Direction le Canada maintenant pour la suite de votre revue de presse, Achim Lippold. Les journaux commentent la première rencontre officielle entre Marc Carney et Donald Trump à la Maison-Blanche.
Oui, et la presse évoque un grand ouf de soulagement. L'échange s'est déroulé hier dans un climat étonnamment détendu, loin des tensions redoutées. Mais un sujet sensible est vite revenu sur la table, l'idée que le Canada devienne le 51e État américain. Donald Trump a relancé cette provocation. Je continue de le croire, ce sera mieux pour le Canada. Le Premier ministre canadien a répliqué fermement « Le Canada n'est pas à vendre et ne le sera jamais ». D'après la presse, Mark Carney, visiblement agacé, a profité du dîner pour demander à ce que cette idée cesse d'être remise sur la table. Sur les questions commerciales, les deux dirigeants ont trouvé un terrain d'entente pour reviser les termes de leur accord. Mais, selon la presse, Donald Trump refuse pour l'instant de lever les droits de douane sur les produits canadiens.
Autre sujet à lire dans la presse, la volonté de l'administration Trump d'effacer certains récits liés à l'histoire raciale des États-Unis.
Oui, c'est à lire dans le New York Times. Le gouvernement s'en prend notamment au musée consacré à l'histoire des Noirs, annonçant un exemple symbolique, la Whitney Plantation en Louisiane. Elle a vu une subvention fédérale lui être retirée d'abord avant d'être rétablie. Un décret signé en mars par Donald Trump demande de purger les institutions culturelles des idéologies inappropriées, une formule qui inquiète la communauté afro-américaine. Certains y voient un langage orwellien. Le Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine, lui, demande d'avoir retiré des objets sous pression politique, même si des rumeurs circulent et dont le projet de budget pour l'année prochaine. Plusieurs aides financières essentielles au musée sont appelées à disparaître. Face à cela, des historiens, des conservateurs rappellent que l'histoire noire est une part fondamentale du récit américain, mais certains intellectuels afro-américains soutiennent la démarche de Donald Trump. Selon eux, revenir sans cesse sur les blessures du passé ne fait qu'alimenter les divisions.
Et puis, Achim, la presse du continent revient largement sur l'exfiltration de 5 opposants vénézuéliens.
Ah oui, ils étaient réfugiés à l'ambassade d'Argentine à Caracas. Ils sont désormais en sécurité aux États-Unis. C'est le secrétaire d'État Marco Rubio qui a annoncé la nouvelle, saluant ce qu'il appelle une opération réussie et qualifiant les exfiltrés des héros de la démocratie. Mais les circonstances de leur départ restent floues. Le Miami Herald s'interroge sur la possibilité d'un accord tacite avec le régime Maduro. Côté Chavis, la chaîne Telesur affirme qu'un sauf-conduit a bien été négocié avec les autorités. Pour les sites indépendants tal quel, cette information pourrait être de la propagande. Le journal évoque une toute autre version. Selon ses sources, le départ des opposants aurait été préparé en toute discrétion, en plusieurs étapes, grâce à des complicités à l'intérieur de l'administration. L'annonce officielle n'aurait été faite que lorsque tout le monde était déjà sain et sauf aux États-Unis. Selon tal quel, le gouvernement de Nicolas Maduro aurait été pris de court par cette exfiltration.
Achim Lippold, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr.
RFI As Vozes do Mundo.
Je vous propose maintenant une plongée dans l'un des plus grands projets de la Chine dans le monde, les nouvelles routes de la soie établies ces dernières années pour construire des réseaux commerciaux bien au-delà du lien Asie-Europe. Tous les continents sont concernés. On avait eu l'occasion de parler déjà ici, par exemple, de l'immense port de Chancay au Pérou, inauguré en novembre dernier en présence du président chinois. Mais il faut bien avoir en tête, Juliette Chénion, que ce mégaport n'est qu'une facette des ambitions de Pékin au cœur de l'Amazonie brésilienne.
Oui, car tout part d'un constat simple. Pour la Chine, importer des ressources d'Amazonie est plus rapide en passant par l'océan Pacifique plutôt que par l'Atlantique. C'est aussi moins cher, d'où le besoin d'investir dans les infrastructures au Brésil, comme l'explique Rubia Wagner, économiste à l'Université fédérale de Rio de Janeiro.
La Chine ne produit pas de soja transgénique, donc elle dépend beaucoup des importations. Ces entreprises étatiques agissent comme des distributeurs et sont déjà très présentes en Amazonie, mais cela reste insuffisant. La stratégie d'approvisionnement de la Chine ne sera complète que si les Chinois contrôlent aussi la logistique.
Depuis 2009 et dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine a donc besoin du Brésil. Elle importe chaque année pour près de 20 milliards de dollars de soja brésilien, le double d'il y a 20 ans. Et ce n'est pas tout, la Chine exploite aussi en Amazonie les minerais de fer ou des métaux rares comme le niobium.
D'où l'intérêt de la Chine pour ce projet titanesque de route terrestre et fluviale, de la forêt tropicale jusqu'à la côte ouest du continent.
Oui, 5 axes de plusieurs milliers de kilomètres à travers l'Amazonie sont en projet ou déjà en construction, comme on peut le voir sur une carte publiée par le média Mongabay. Au Brésil, la priorité est la route 2, dite route Amazon. Elle devra connecter Manaus à 4 ports du littoral pacifique, 2 au Pérou, 1 en Équateur et 1 autre en Colombie. Et tout cela devrait être achevé d'ici l'année prochaine.
Concrètement, ces grands travaux d'infrastructure pourraient complètement transformer l'Amazonie.
Oui, car pour construire ces routes, il faut déforester mais aussi draguer le fond des fleuves. Sur le Solimões, par exemple, les barques en bois des habitants croiseront à l'avenir des navires commerciaux. Les rives vont se doter de panneaux de signalisation. Et tout cela n'est qu'un exemple des 190 aménagements nécessaires en Amazonie pour construire ce gigantesque réseau de routes.
On parle d'un projet d'infrastructure qui devrait coûter plus de 10 milliards de dollars au Brésil, soutenu par des fonds chinois. En Amazonie, un projet en particulier intéresse la Chine.
Celui de l'Arco Norte, oui, dans le nord, une zone stratégique. 69% du soja brésilien y est produit. L'idée ici, c'est de relier les fermes de cette région aux 5 axes majeurs qui, à leur tour, iront jusqu'au Pacifique. Pour cela, rien que dans l'Arco Norte, une seule région, donc il est prévu de s'appuyer sur 11 ports fluviaux existants, de construire et de finir les travaux de 5 chemins de fer, ainsi que des dizaines de routes bitumées.
Ce projet d'investissement soutenu par la Chine soulève donc des inquiétudes du côté des défenseurs de l'environnement.
Effectivement, écoutez à ce sujet Rubia Wagner de l'Université fédérale de Rio de Janeiro.
Pour construire ces infrastructures, ces routes, ces chemins de fer, la Chine défriche. Mais il n'y a pas d'études pour savoir comment cela affecte les communautés autochtones d'Amazonie. Et il n'y a pas d'études environnementales. Ce point n'est vraiment pas clair pour le moment.
Les spécialistes craignent donc de voir se dessiner le schéma désormais habituel de déforestation dit en arête de poisson. Il faut imaginer un axe de circulation principal sur lequel se greffent des chemins secondaires et des villages comme des arêtes accrochées à la colonne vertébrale d'un poisson. Autre inquiétude, les routes en Amazonie favorisent presque toujours les activités illégales comme les mines d'or, les coupes clandestines de bois, le narcotrafic ou l'accaparement de terres. Un danger pour les populations autochtones.
Et d'ailleurs, ces phénomènes, on les observe déjà avec le projet Arco Norte.
Oui, par exemple, dans les villages des communautés Kayapo et Mundukuru qui luttent depuis 10 ans déjà contre un chemin de fer, le Ferrograin, plus de 900 km à travers la forêt tropicale. Même si plusieurs procès ont déjà retardé sa construction, les dégâts sont déjà là. Le nombre de condamnations et d'amendes pour déforestation a triplé dans la zone depuis le début du chantier.
Ce projet de nouvelle route de la soie en Amazonie a été approuvé par le gouvernement brésilien l'année dernière. Comment expliquer le soutien du président Lula au développement de ces vastes infrastructures malgré donc ses conséquences environnementales ?
Eh bien, pour l'économiste brésilienne Rubia Wagner, la réponse est très simple.
Lula est surtout préoccupé par le développement économique. Ses plans de route ont été pensés depuis très longtemps, pendant la dictature brésilienne. Donc, c'est très logique que la Chine veuille une nouvelle route de la soie en Amazonie, car c'est déjà là. Il n'y avait pas besoin que Xi Jinping en parle pour que ça arrive. Tout était déjà prêt.
Et ce réseau de route est loin d'être le seul engagement chinois au Brésil. Pékin a déjà investi plus de 66 milliards de dollars en 10 ans, dont les trois quarts pour financer des centrales électriques, mais aussi l'extraction de gaz et de pétrole brésilien.
Notre dossier du jour, signé Juliette Chénion. L'actualité des Outre-mer françaises avec vous, Benoît Ferrand. Benoît, 2024 serait une année à oublier pour l'économie de la Martinique. Tel est le résumé du bilan dressé par l'Institut d'émission d'un département d'outre-mer.
L'IEDOM, et selon l'Institut, ce sont les secteurs, et vous verrez que ce ne sont pas les moindres, du BTP, de l'agriculture et du tourisme qui auraient le plus souffert l'an dernier sur l'île des Antilles. Adrien Boileau est responsable d'études à l'IEDOM. Il est au micro de Maurice Violeton.
L'économie martiniquaise a détruit des emplois en 2024. Et ça, c'est quand même un signal d'une dynamique qui est quand même vraiment enrayée. Et puis, on a finalement une consommation qui s'essouffle. On se rend compte que le secteur de l'agriculture en Martinique est vraiment en baisse de production tendancielle. Après, c'est pas seulement une sorte de conjoncture, hein, c'est aussi les aléas climatiques avec des épisodes de sécheresse et des épisodes de pluie intense qui impactent toutes les productions, que ce soit végétales ou animales en Martinique. Sur les secteurs d'activité, on se rend compte aussi une baisse sur le secteur du BTP. On a finalement peu de projets structurants sur le territoire et donc on a finalement des entreprises qui ont du mal à remplir leur carnet de commandes. Et ça, c'est vraiment une tendance des dernières années. Enfin, sur le secteur du commerce, on a un ralentissement de la consommation qui impacte les entreprises du commerce. En fin d'année, on a les mouvements sociaux avec des consommateurs qui ont été empreints de morosité et qui ont été moins enclins à dépenser que les années précédentes. Et donc, ça fait un bilan assez dégradé pour 2024, pour l'entreprise du commerce.
Aux incertitudes économiques viennent s'ajouter les tensions dans le recrutement. Hier, au premier forum de l'apprentissage de la ville du François, le président de la Chambre nationale des artisans en travaux publics est pourtant venu vanter auprès des jeunes collégiens ou lycéens les possibilités offertes par le BTP. Franck Mogad est au micro de Mike Irasque.
Aujourd'hui, la pénibilité a changé, la donne a changé. Aujourd'hui, nous travaillons de plus en plus de manière mécanisée. Le métier évolue. Malheureusement, on bénéficie d'une peut-être mauvaise communication, une méconnaissance du métier. Il y a encore de quoi faire. Et puis, il suffit que les jeunes vraiment s'intéressent, se disent voilà, aujourd'hui, en termes de, par exemple, de conducteur de travaux, en termes de chef de chantier, on a cette difficulté. Donc, il y a de la place. Donc, il suffit juste de se former, je crois, en nos jeunes martiniquais. Il faut qu'il y ait une certaine visibilité économique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des marchés à court, moyen et long terme pour permettre justement aux entreprises, aux chefs d'entreprise de pouvoir se projeter. Et ça, c'est quand même important. L'un ne va pas sans l'autre. Effectivement, il faut pouvoir avoir une visibilité économique pour dire voilà, nous avons besoin de tant de jeunes dans tel domaine. À ce moment-là, le secteur se portera mieux.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. On va se quitter avec un peu de musique.
J'ai vendu mon char parce qu'elle est pas passée.
Je ne sais pas si vous connaissez le chiac. Le chiac, c'est cet argot franglais parlé par les Acadiens au Canada, ces descendants des Français. Et c'est en chiac que chante ce groupe que vous entendez en ce moment, les Hey Babies, en concert ce soir à Montréal. Voici le titre « J'ai vendu mon char ». Babies. Elles seront en concert ce soir à Montréal. Et c'est ainsi que se termine RFI Midi. On se retrouve demain à 11h temps universel. Et tout de suite, vous retrouvez Pascal Paradou pour De Vive Voix autour de cette question. Comment les contes racontent la France? Très bonne journée à tous.
RFI Midi. Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Elle voulait à tout prix réaliser le rêve de son père, réunir pour un concert quatre Stradivarius. Mais l'ego des artistes va transformer ce rêve en cauchemar. La comédie Les Musiciens sort cette semaine sur les écrans en France. Grégory Magne, le réalisateur, et l'acteur principal Frédéric Pierrot seront avec nous.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.